Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Eve Harel, est avec nous en studio. Comment ça va?
Hein? Ça va bien, merci.
Est-ce que tu es du type à apprécier les grandes chaleurs comme on
j'espère
a eu?
J'espère bien, ah ouais, j'espère hein? bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral.
C'est le
moral,
fun,
on
oui.
sent bien, ben oui.
C'est le fun, hein?
Oui.
Ça se prend, puis
c'est
ça,
pas trop.
Ça sent l'été.
Ben non, voyons
ah non,
donc.
C'est jamais okay. trop
ben
la chaleur.
Non, on peut chialer sur la politique, mais jamais sur la météo, surtout pas quand il fait chaud.
Je suis dans le même team que toi, Jacinthe.
J'aime qu'on peut chialer sur la politique. Je trouve ça le fun. Puis on t'avait donné comme un genre de petit devoir ou une petite mission bien précise. Qu'on retourne... Ben, ça se compte quasiment, ça se compte en décennies, là, il y a presque 30 ans, puis qu'on passe à travers les différentes réformes qu'on a eues dans notre fameux système de la santé. On sait qu'on brasse souvent la soupe. Malheureusement, ben, ça goûte pas toujours bon, là, en bout de ligne, puis c'est pas super efficace. On brasse cette soupe-là encore une fois, beaucoup de négociations avec différentes personnes très importantes dans le système de la santé. On va jaser... J'allais dire des bons et des moins bons coups, mais je pense que ça penche pas mal plus du côté des moins bons coups au courant des presque 30 dernières années.
Oui, bien, on a fait plusieurs grandes, grandes réformes dans le réseau de la santé, toujours avec des intentions louables, des intentions nobles de
on veut bien faire.
Ben oui, d'améliorer les choses, mais ça s'est toujours avéré. Se révéler comme étant finalement des grandes réformes qui ont bouleversé énormément, qui ont chamboulé beaucoup le réseau sans nécessairement apporter les avantages qu'on souhaitait apporter parce qu'on réalise que ça a apporté tellement d'inconvénients que finalement, on réalise 10 ans plus tard que bon, mais on va faire une autre réforme pour changer les inconvénients qui ont été créés par la dernière réforme, mais finalement, il n'y a rien qui s'améliore.
Bien, mini parenthèse, avant qu'on se lance là, dans l'analyse, si on veut, là, des presque 30 dernières années dans le système de la santé, tu sais, Pourquoi? Tu sais, j'adore ce que tu dis. Tu sais, j'aime au bout que tu parles de noblesse, que c'est, tu sais, initiative. On veut bien faire.
Ouais.
Sais-tu qu'on comprend pas la machine? Es-tu trop grande et complexe, cette machine-là? Puis on pense qu'on peut, tu sais, brasser la soupe, comme je disais, puis changer les choses, mais finalement, ça fonctionne pas. C'est parce qu'on la catche pas vraiment.
Je pense qu'on la comprend, mais elle est très, très complexe. Il y a plusieurs parties prenantes, plusieurs acteurs, différentes professions qui sont représentées par des syndicats, par des corporations professionnelles aussi. Donc, plusieurs parties prenantes, comme on appelle dans des dossiers complexes. Donc, tout le monde a des intérêts, convergents quand il s'agit du bien-être du patient, mais parfois divergents quand il s'agit d'organiser ces soins-là. Donc, c'est complexe. Puis, je pense qu'au fil du temps, on a toujours sous-estimé les coûts d'entretien de la santé et des services sociaux d'une population. On sous-estime énormément les coûts, donc ça fait que finalement, le système est financé à telle hauteur, mais on aurait besoin d'une plus grande hauteur parce que la santé, c'est global, c'est la santé physique, la santé mentale et finalement, les besoins de chaque être humain, fois 9 millions d'habitants en ce qui concerne la population de Québec, du Québec, ça fait que ça a des coûts énormes. Et plus la machine est grosse, plus il se perd aussi de l'efficacité. Mm-hmm. Ça, dans tous les domaines, c'est connu, dans toutes les industries. Le secteur privé est très conscient de ça. C'est pourquoi ils sont constamment en train de regarder la performance là, de leur organisation. Et dans le réseau de la santé, c'est la même chose. Plus on ajoute des couches de services, des couches de gestion, plus il y a de l'argent qui se perd finalement à gérer le fonctionnement, à faire fonctionner. Moi, j'aime bien faire fonctionner le fonctionnement.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu parles de réforme, puis tu parles également de budget, puis je pense que le point d'ancrage de la réforme qui fait en sorte qu'on est toujours en train de refaire, c'est la réforme Rochon, le fameux virage ambulatoire en 1996, où on voulait couper 2 milliards en santé pour justement atteindre l'objectif de déficit zéro. C'était Lucien Bouchard à ce moment-là, le premier ministre. Est-ce que c'est vraiment ça, t'es le point de départ de dire « Et là, notre système de santé est devenu complètement, pardonne-moi l'expression, fucké à partir de là? »
Oui. Avant, on a vu aussi qu'on souhaitait constamment s'ajuster parce qu'on répondait jamais correctement aux besoins. Mais oui, la réforme Rochon a été un massacre dans le réseau, a été perçue comme un massacre dans le réseau de la santé par tous les travailleurs, hein, peu importe leur type d'emploi.
Parce que c'est tout près de 60 000 postes qu'on avait abolis, là, je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, on a aboli plusieurs postes cadres, plusieurs postes. On a envoyé des gens à la retraite aussi parce qu'on était dans un effort d'atteindre du déficit zéro. Mm-hmm. Effectivement, c'est le ministre Jean Rochon, le député Jean Rochon, qui était député de Charlebourg. Donc, il vient de chez nous, député de Charlebourg de 1994 jusqu'en 2003. Donc, il a travaillé sous les gouvernements Parizeau, Bouchard, puis Bernard Landry. Et l'atteinte du déficit zéro en 1996 a amené des grosses coupures qui a fait en sorte qu'on a aussi fait un virage ambulatoire. Donc, on s'est dit... En même temps qu'on coupe des postes, là, on ne peut pas juste couper des postes pour couper des postes. On a fait un virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a décidé de réduire la durée des hospitalisations pour plusieurs chirurgies ou plusieurs interventions. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a désinstitutionnalisé beaucoup de services. Donc, on s'est dit, ça va coûter moins cher si on garde les gens moins longtemps à l'hôpital et qu'on ne les amène pas à l'hôpital quand ce n'est pas nécessaire absolument. Donc, plus de soins à domicile pour les personnes âgées et aussi pour les durées de suivi de chirurgie, par exemple, ont diminué de plusieurs jours. Donc, on se disait, on va faire des gains aussi à ce niveau-là.
C'est là qu'il y a eu l'apparition des CLSC, si je ne me trompe pas, là, oui. Ou à tout le moins là, une augmentation de l'offre de services.
Oui, création des CLSC, création des CHSLD. Ça avait ça de positif d'amener à l'hôpital vraiment les gens qui avaient besoin d'aller à l'hôpital. Ça a amené des services un peu plus de proximité parce qu'on sait que si on est plus près des patients, si on est plus près de leur domicile, on est en mesure de prévenir la détérioration des situations et ça coûte moins cher au système. Oui, mais il reste que ça a causé des grands remous parce qu'à chaque fois qu'on fait des coupures comme ça, tout le monde doit se réorganiser, se réapproprier le travail. Il y a une période de chamboulement qui est importante, qui dure plusieurs années dans le réseau pour comprendre qui fait quoi maintenant, puis les trajectoires aussi de soins. Donc là, telle sorte de patient, on n'avait pas pensé, telle sorte de patient qui a telle sorte de problématique, on l'envoie où ou qu'est-ce qu'on fait? On n'avait pas pensé au cas exceptionnel, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'ajustements qui sont
fait que début de la spirale avec la réforme Rochon en 96, puis si je te comprends bien, on a encore des échos de tout ça, puis on a encore un impact de tout ça en 2024.
Ben oui, parce qu'on pleure encore les CLSC. On entend encore des gens dire qu'il faudrait avoir le retour des CLSC qui avaient été créés sous la réforme Rochon, mais qu'on va voir plus tard qui ont été complètement délaissés. Mais les coupures de poste puis le virage ambulatoire a laissé des grandes marques, notamment dans tout le secteur des services sociaux, la santé mentale, la toxicomanie. Ça, c'est des secteurs qui souffrent encore de ce virage ambulatoire-là.
Puis là, tantôt, tu parlais de grosses structures. 7 ans plus tard, c'est le ministre Philippe Couillard qui est en tête du ministère de la Santé, donc sous le gouvernement de Jean Charest. Puis lui, il va d'une nouvelle réforme, mais on crée une nouvelle structure qui est le centre de santé et services sociaux. Puis là, on mélange tout ça, CLSC, médecine générale, médecine spécialisée, CHSLD. Ça, je pense que c'est une réforme qui n'a vraiment pas atteint son objectif parce qu'on est venu complexifier la machine. Je me trompe-tu?
Oui, effectivement, c'est en 2003, la réforme Couillard, 2003. On est venu complètement former 15 agences de santé. Ces agences de santé-là vont devenir le cœur, finalement, de d'autres réformes. Mais finalement, on essaie de prendre des établissements, des hôpitaux, des CLSC, des CHSLD, puis on essaie d'envoyer la gouvernance ou d'envoyer le chef d'orchestre. Finalement, on crée une organisation qui est l'agence, qui vient jouer le rôle un peu de chef d'orchestre pour harmoniser... Je parle vraiment leur langage. Ça paraît que j'ai...
C'est qu'on les mettait toutes sous le même chapeau en disant le service va être complet de quand tu arrives au CLSC jusqu'à temps que tu sois placé en CHSLD.
Oui, exactement. Donc, on appelle ça la création des différentes lignes. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc, c'est les différents types de services pour s'assurer que finalement, une personne qu'elle ait besoin de soins mineurs, de soins spécialisés ou surspécialisés, on la perde pas dans le système. Encore là, il y a un gros langage bureaucratique aussi qui s'est développé avec ça. Et la réforme Couillard est vraiment... le début, je dirais, d'une grande bureaucratisation puis technocratisation dans le réseau de la santé. Donc là, on est vraiment, on a vraiment développé un vocabulaire propre au réseau de la santé, un vocabulaire aussi, je dis propre au réseau de la santé, mais c'est un vocabulaire qui se voulait propre aussi. Hein, on va harmoniser les soins, on va s'assurer là, qu'on n'échappe plus de patients, le patient va être au cœur de nos décisions.
On utilise les beaux mots.
On utilise beaucoup de beaux mots, on utilise beaucoup de belles missions, beaucoup de belles, de beaux slogans pour essayer de démontrer que finalement, on humanise les soins puis qu'on prend en charge les patients. Mais finalement, c'est une grande, grande bureaucratisation qui débute.
Ben oui, puis comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, quand tu réorganises, ben ça prend des années d'ajustement. Fait que pendant ce temps-là, c'est le patient qui paye parce qu'il n'y a pas le service qu'il devrait avoir. Donc, au lieu de poser des actions concrètes sur le plancher, ben on organise la gouvernance en haut, puis là, ça vient tout débalancer.
Exactement. Et là, ben on se retrouve avec des intervenants sur le plancher qui... moi, je me souviens, à l'époque, en 2003, c'est là où j'ai commencé dans le réseau de la santé. Mm-hmm. Et ils disaient, les intervenantes plus âgées puis plus expérimentées en fin de carrière me disaient, « Colin, on vient de s'en remettre de la réforme Rochon, puis là, il nous arrive avec une autre réforme. On va en avoir pour des années. » Puis ils étaient très, très négatifs. Ouais. Moi, j'ai commencé dans le réseau avec ce climat-là très, très négatif qui était perçu par la réforme Couillard, que les travailleuses disaient, « Ça n'a aucun sens. On recommence à zéro. On recommence avec des nouveaux directeurs, des nouveaux postcards, des nouvelles structures de soins. On ne voit plus les patients de la même façon qu'on les voyait. On doit les envoyer où la bureaucratie s'alourdit. » Et finalement, ben moi, pendant ce temps-là, mes patients, je vois que je les vois moins souvent, moins longtemps. Mm-hmm. Tout est plus complexe pour eux aussi.
Jacinthe, tu parles de structure. Ça nous amène en 2015 avec la réforme Barrette. Structure, c'est un mot très clé de cette réforme-là.
Oui, c'est sous le gouvernement de Philippe Couillard du Parti libéral. Donc, la réforme Barrette en 2015, on a adopté sous Bayon pour la loi 10. Donc, le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, a décidé de centraliser. Donc, il s'est dit... Cette réforme-là, en gros, il s'est dit, on va faire des économies d'échelle encore, on va économiser, le système coûte trop cher, on va centraliser les décisions et on va uniformiser aussi les soins. Et dans sa vision des choses, ce qu'il se disait, c'est qu'on va augmenter le volume d'activités, mais on va centraliser les activités. C'est-à-dire qu'un hôpital qui ne fait pas beaucoup de telle sorte de chirurgie, bon, ils vont arrêter de faire telle sorte de chirurgie. Et un hôpital qui en fait beaucoup de cette sorte de chirurgie-là, ben on va augmenter son volume, on va centraliser. Plus. Donc, on va diriger les patients de 15 hôpitaux vers un seul hôpital qui va être spécialisé, par exemple, dans les chirurgies de la hanche. Donc, en centralisant comme ça, en ayant des méga laboratoires aussi, avant nos formules sanguines, quand on se faisait faire des prises de sang, elles étaient envoyées dans les petits laboratoires autour de chez nous, autour de nos hôpitaux, de nos CLSC. Maintenant, ça a été centralisé dans des méga laboratoires. Donc, ça fait en sorte que, ben, par exemple, ben, nos formules sanguines peuvent partir de Granby puis s'en aller aussi loin qu'à Sherbrooke pour se faire analyser, alors qu'avant, ils étaient analysés à Granby, par exemple. Je ne parle pas d'un... C'est le secteur où j'étais, là, fait que je ne veux pas dire n'importe quoi pour la région de Québec.
Donc,
nos petits flacons de sang voyagent beaucoup plus. Et c'est ça. Fait que, donc, cette fusion-là a fait en sorte qu'on a centralisé énormément. On a créé des méga établissements et ça fait en sorte qu'on a centralisé les décisions. Ça a été extrêmement néfaste pour toutes les plus petites régions, les plus petites localités, parce qu'on a perdu beaucoup de services. Puis là, je dis en région, mais c'est même en banlieue. Là. C'est pas juste en région. Là, même en banlieue, on a vu des services fermés, être rapatriés dans les grands centres urbains. Et ça fait aussi qu'un patient qui doit avoir une chirurgie de la hanche, mais aussi qui est vu en santé mentale ou qui est vu dans un autre, pour d'autres problèmes de santé, peut se promener d'un établissement à un autre parce que là, ça se fait plus dans tel établissement, ça se fait dans l'autre établissement. Ouais. Donc, il doit se promener.
C'est plate de se promener avec une mauvaise hanche en plus.
Oui.
Non, mais c'est ça.
Si on utilise cet exemple-là.
Ben, tu sais, parce que ce qu'on veut démontrer aujourd'hui avec toutes les réformes, c'est que malheureusement, on est dans le champ parce qu'on oublie le patient. Puis c'est un bel exemple que tu viens de mentionner là avec la réforme Barrette. T'sais. Au lieu d'aller à mon hôpital, d'avoir tous mes services, mais là, je m'en vais dans trois hôpitaux différents. Fait que j'ai du kilométrage de plus à faire. Tu es Red, je disais la blague, mais c'est vrai, tu es blessé à hanche. Faut que tu embarques dans ton char. Faut que tu demandes le transport.
On t'envoie ailleurs.
On t'envoie ailleurs. T'sais, on vient complexifier complètement la vie du patient.
Ouais.
La création de Santé Québec.
Ouais.
Moi, je vois ça encore comme une réforme organisationnelle. Puis J'y crois pas beaucoup. Ben, j'ai-tu raison de pas y croire?
Ben, c'est dans la mouvance de la réforme Barrette. Il faut savoir que c'est vraiment la poursuite de la réforme Barrette que Christian Dubé, bon, avec sa touche personnelle, puis avec ses couleurs, puis sa vision, mais il reste que on s'en va dans la même mouvance, c'est-à-dire une hyper-centralisation. Donc, on centralise la gestion du réseau au sein de Santé Québec. On a enlevé une grande partie des pouvoirs locaux aussi encore en enlevant les conseils d'administration des établissements. Donc maintenant, les PDG des établissements vont relever de Santé Québec. Bien, ils relèvent déjà, là, c'est commencé. Ils relèvent de Santé Québec plutôt que de relever d'un conseil d'administration qui était finalement composé de gens de la communauté. Là, c'est vraiment des fonctionnaires à Santé Québec qui gèrent les PDG. Donc les décisions sont vraiment encore plus bureaucratisées, sont encore plus perçues, sont prises à la lumière des lunettes de technocrates puis de bureaucrates et moins, encore moins de la population puis des patients qui pouvaient encore siéger à des conseils d'administration jusqu'à tout récemment. Donc, c'est une hyper-centralisation. Effectivement, c'est pas encourageant parce qu'on a vu avec cette centralisation-là au fil des dernières décennies que ça causait plus de tort que de bien aux patients.
Ouais.
Et c'est le grand malheur de ces réformes-là, c'est qu'elles ont toujours été perçues à partir d'en haut, de la tour d'ivoire, à partir des élus, à partir des hauts fonctionnaires aussi qui entourent les élus. Parce qu'il faut savoir que les ministres de la Santé, ils se font donner l'information avant de prendre des décisions, de faire des réformes. Ils se font donner de l'information par les hauts fonctionnaires qui ont gravi les échelons au sein de ce même système-là. Ouais. Et puis, ça fait en sorte qu'on s'est éloigné, même si on dit toujours qu'on a l'objectif d'être autour du patient puis d'avoir le patient au cœur de nos décisions. Au bout du compte, c'est une vision très, très de haut en bas plutôt que de bas en haut, alors qu'on sait que les meilleurs systèmes de santé sont ceux qui sont les plus près du patient, donc des systèmes de santé de proximité dans les CLSC, dans les cliniques locales, puis des soins globaux. Donc, quand on a une équipe qui voit tous tes problèmes de santé ou la majorité de tes problèmes de santé, on connaît mieux notre patient plutôt que de le garrocher à gauche, à droite, dans un établissement, dans un service ou dans l'autre.
Jacinthe Averel, c'est long, mais le fun, cet exercice-là, de comme analyser, faire un survol des presque 30 dernières années dans le système de la santé. Là. Malheureusement, puis tu sais, je reviens tout le temps, le patient n'est pas prioritaire là, dans toute cette histoire-là et ces nouvelles structures-là, puis je pense que ça, c'est la moins bonne nouvelle de l'analyse et de la discussion, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et le fun de faire un survol des 30 dernières années.
Ben oui, c'est souvent aussi parce qu'on oublie qu'un patient, c'est pas juste un cas de diabète ou un cas d'hypertension ou un cas de santé mentale.
C'est un être humain.
Un patient, c'est un être humain qui va traverser toutes sortes de choses dans sa vie, des grossesses, des troubles de santé mentale, des troubles de santé physique qui vont se rétablir. Alors, quand on gère par maladie plutôt que de gérer par être humain, ben c'est ce qui arrive.
Merci pour ça, Jacinthe.
Merci.
OK,
merci.
À bientôt.
Bye-bye. Red.